Alors, il y avait une question qui était, est-ce que le besoin de ne jamais être pris en défaut, de ne pas supporter d'être repris, de ne pas supporter l'échec peut refléter une faible estime de soi ? Oui et non, j'y ai un peu répondu, je crois, à cette question. C'est surtout le reflet de tout ça, de ce qui se passe en ce moment. D'accord ? L'amour et l'admiration trop appuyés d'une mère peuvent-ils être préjudiciables à l'estime de soi que l'enfant se construit ? Oui et non. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la maman anxieuse qui va coller à l'enfant et qui va penser que c'est ça l'amour, en fait. Donc non, c'est pas ça l'amour. Hein. Il faut être bien clair sur ce qu'on entend par amour. Donc, admiration trop appuyée. Non, c'est super d'admirer ses enfants. On peut quand même leur faire des compliments et leur dire qu'ils sont merveilleux, hein, évidemment. Mais voilà, c'est toujours une juste mesure pour que l'enfant ne devienne pas dépendant. Parfois, il y a des gens qui disent « Oui, on m'a dit qu'il fallait plus faire de compliments à ses enfants au dessin de mon petit en maternelle. Il faut plus que tu fasses des compliments. » Je dis « Non, c'est pas ça. » Non, on peut admirer le dessin de son petit en maternelle, c'est pas ça. En revanche, si on ne stimule l'enfant que par ça, il peut devenir dépendant à ça. Et du coup, à l'inverse, bah, si on ne lui dit plus un jour à l'école que son dessin est merveilleux, il peut s'effondrer. Parce qu'il ne va plus comprendre. Il dit, mais pourtant, c'était ça, moi, qu'on m'a appris. Que... Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que le trop appuyé, il faut être vigilant. Ok ? J'ai cru avoir une main levée. Moi, si vous ne m'arrêtez pas, je continue. Hein. Non, je vous rassure, j'arrêterai. Comment éviter d'être influencé par sa propre existence ? Eh bien, je vais vous répondre, faites une thérapie. Ben ouais, faites une thérapie, un travail sur vous, une psychanalyse. Voilà, observez, revisitez, vous, ce qui s'est passé pour vous. Parce que évidemment qu'on est farci de toute notre histoire, dans le positif comme dans le négatif, on est pétri de tout ça, et donc l'enfant, il est au bout de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'en haut de l'entonnoir, il y a papa et maman qui sont chargés de leur propre histoire, de leurs propres blessures, de leurs propres souffrances, de leurs propres carences affectives, et j'en passe, et au bout de l'entonnoir, il y a l'enfant. Et l'enfant, il est parfois un peu écrasé par la charge que portent les parents. Donc, le meilleur moyen, c'est de vider son propre vase qui a été rempli de travioles, avec des choses pas toujours super. Du bon usage du contrôle parental sur les outils actuels, les limites à poser, comment les inciter à créer plutôt qu'à consommer. Alors ça, j'ai peur que ça nous envoie sur une autre conférence qui serait sur l'usage des outils, des téléphones, etc. Ouais, ça c'est pareil. Dans le téléphone, il y a les copains, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà suivi des échanges de textos, c'est quand même assez pauvre, hein. Mais c'est très très rassurant. C'est très rassurant. C'est-à-dire que mes potes, ils sont là. Voilà. Ils sont là, je suis pas tout seul, je peux râler. C'est juste une présence en fait. Donc en revanche, poser des limites évidemment. Nous, on a mis en place le téléphone à 21h. Tous les téléphones de la maison à 21h sont dans la cuisine. Les nôtres aussi. Donc je peux vous garantir que quand les nôtres sont pas dans la cuisine, on se fait attraper. Et voilà, c'est normal. Donc on essaye de jouer le jeu de la règle qu'on a posée, quoi. Donc oui, évitez la nuit, parce que ça, c'est vraiment pas bon. Mais puis le jour, en général, normalement, ils sont au collège, hein, au lycée, donc j'ose imaginer qu'ils ne sont pas trop dessus. Et puis après, surtout, discuter avec eux. Je sais que c'est pas simple, mais voilà. Mais je vous renvoie plutôt sur des conférences vraiment spécifiques avec des gens qui savent vraiment comment faire avec tout ça. Comment rassurer mon ado malgré les humeurs changeantes, tout simplement ? Bon. C'est bon ? Question d'un professeur. L'un de mes élèves ne s'intéresse à rien, refuse tout, ne sait rien sur rien. Il est mou, il souffle au moindre effort, il est renfrogné et a peu d'amis. Comment arriver à faire émerger l'étincelle de vie qui l'anime ? Comment arriver à mettre à jour au moins l'un de ses points forts pour que nous puissions nous appuyer dessus et l'aider ? Là, c'est une super question. Il n'y a que les jeux vidéo et Fortnite qui l'intéressent un peu. Et ouais, alors moi, je ne connais pas Fortnite, mais j'en entends beaucoup parler. Voyez le petit enfant. En fait, derrière la carcasse de 1m80, boutonneux, peut-être qui fait des conneries, qui fume, qui parle avec une voix, il y a un petit enfant. Et ce petit enfant, eh ben, il doit être un peu paumé. Et effectivement, aller chercher l'étincelle de vie qui l'anime, ça va être un peu être là, quoi. Être soutenant, quoi, qui que tu sois, je suis là. Alors forcément, s'il n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça, l'ado, il va dire je ne vous dirai rien. Mais en fait, ça s'apprend. C'est-à-dire que c'est un mode opératoire qui, à force d'être proposé, va finir un jour par être attrapé. Mais voilà, je dirais patience, présence bienveillante, et rappeler tout le temps, ben, je suis là, je vois que c'est difficile pour toi. Est-ce que c'est la matière qui est difficile pour toi? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît pas? Pourquoi c'est difficile? Voilà, essayer d'ouvrir les questions au maximum pour engager un dialogue. C'est ce que je proposerais. Et la dernière question que j'ai notée, comment aider nos enfants à avoir une bonne estime d'eux-mêmes? Bon, ben là, c'est la conférence, hein, non? J'espère que j'ai répondu à peu près.
Moi, j'avais posé une question.
Alors, dites-moi. Alors, je ne l'ai pas eu.
C'était, si je me souviens bien, comment aider nos ados à avoir plus confiance en eux? Parce que par l'estime de soi, et après, il y a confiance en soi.
Oui, alors effectivement, moi, j'ai mis un peu tout dans le même sac. La confiance en soi, elle va venir avec ce que moi j'appelle les croyances négatives. C'est-à-dire mes compétences. J'ai des compétences, mais je ne le sais pas. Et donc, je ne peux pas les montrer, je ne peux pas les utiliser. Donc les adultes bienveillants qui sont autour doivent être ultra vigilants et mettre la lunette à bienveillance et la lunette à compétence, c'est-à-dire ce que je vous ai fait tout à l'heure là, en parlant de ce qui se faisait dans les classes du Nord. Là. Chaque matin, on verbalise une compétence de chaque enfant. Okay ? Donc ça remplit le sac de la confiance en soi. Ça, c'est magique. Ça va ?
Ce truc-là, elle n'a pas conscience qu'elle répond de façon agressive. Alors, est-ce que je fais pas bien de pointer qu'elle me répond de façon agressive, qu'elle parle à son frère ou son père de façon agressive? Comment je peux faire pour qu'elle prenne conscience que sa façon de répondre n'est pas adaptée?
Alors, parlez de vous. Vous parlez pas d'elle, ne parlez pas d'elle, parlez de vous.
Dire, ben, ça me fait du mal.
Voilà. La manière dont tu me parles, là, Je le prends, bon, ça fait violence en moi, ça me touche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce que tu es en colère? Peut-être qu'elle n'est pas du tout en colère. Et effectivement, souvent, ils ne s'en rendent pas du tout compte. Mais juste, vous pointez plutôt ce qui se passe pour vous.
Là, mon fils, il me répond que je trouve que tout est violent. Bon,
c'est pas... Ben, peut-être que j'ai une faible... Oui, une faible tolérance à la violence, oui. Mais alors... Eh oui. J'ai beaucoup de mal à entendre quand on me parle comme ça. J'ai plutôt tendance à avoir les oreilles qui se bouchent quand tu me parles comme ça. Voilà, est-ce qu'on pourrait discuter autrement? Mais après, questionner sur les émotions ou verbaliser les émotions. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui... Est-ce que tu es en colère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui te met en colère? Et pas forcément quelque chose que j'ai dit, parce que le piège aussi, c'est de prendre tout pour nous. Alors là, il y a un autre truc qui marche très bien, c'est le bol. C'est plus le vase, c'est le bol. C'est quand un ado vous parle mal, imaginez, visualisez un bol entre lui et vous. Et en fait, tout ce qui déverse de colère, de haine, vous lui laissez remplir le bol. Et vous vous mettez derrière le bol. Comme ça, vous intégrez que c'est pas vous. Vous êtes juste un support quotidienne sur laquelle il sait qu'il va pouvoir se décharger parce que justement il se sent en sécurité parfois. Et voilà. Ça.
Oui. Et au contraire, un ado qui parlerait pas du tout,
qui s'isole,
qui dit rien, qui va parler mais de banalité sans jamais parler de lui.
Ouais.
On fait comment pour l'inciter à parler un peu de lui?
Pourquoi vous voulez qu'il vous parle de lui?
Ben, si ça va.
Mais il a l'air d'aller mal.
Non.
Mais c'est pas obligation à parler ou à raconter sa vie.
Oui, mais je me dis, parce que là pour le moment, moi elle a plus 11 ans, hein, mais je me dis, si plus tard elle n'arrive toujours pas à exprimer ses sentiments, je ne saurai jamais s'il y a quelque chose qui va pas.
Est-ce que vous exprimez les vôtres?
J'essaye justement.
Ah, bon.
Pour lui montrer que je peux lui montrer mes sentiments. Mais
Alors, essayez déjà de les verbaliser pour vous. Avant de les verbaliser dans l'objectif qu'elle peut. Elle pourra faire comme vous. Déjà, vous, observez comment ça se passe quand vous verbalisez ce qui se passe pour vous, vos émotions, etc. Et puis, c'est tout. C'est une graine que vous plantez. Mais un ado n'est pas tenu de parler ou de raconter. Après, en effet, si c'est un enfant qui s'isole, qui n'a pas d'amis, qui passe ses nuits sur l'ordinateur, etc., oui, là, en effet, il y a des signaux d'alerte qui s'accumulent. Il y a des faisceaux, des indicateurs comme ça, quand il y en a deux, trois indicateurs qui sont en rouge, oui, là, on peut s'alerter. Mais un ado qui est plutôt discret, et qui n'a pas l'air d'aller mal...
Est-ce qu'on est malheureux de faire le contact, en fait, je pense. La coupe
oui.
qu'il y a eu,
voilà. Ouais. Oui. Évidemment. Bien sûr. La difficulté, elle est plus pour le parent. Et oui, qui a plus... Qui a plus le contrôle, parce que l'ado il nous apprend à lâcher le contrôle. Hein.
Oui. Et du coup, dans le cas où on voit que l'ado va pas bien en ce moment, mais que quand on lui demande, il lui dit qu'il sait pas ce qui va pas, tout ça.
Ok. La question c'est comment on lui demande. Alors, dans ces cas-là, autre truc. Particulier. Je vais vous parler du temps d'échange en famille et du temps particulier. Le temps particulier, c'est un temps privilégié avec un enfant, un seul enfant. On détermine à l'avance, on décide ensemble d'un temps, on le planifie et on se met d'accord sur ce qu'on va faire. On ne va pas faire forcément plaisir à soi, hein. C'est pas l'objectif. S'il veut vous emmener voir un film que vous n'avez pas envie de voir, bah vous allez voir le film, hein, c'est pas grave. Mais c'est un temps où l'enfant est seul et vous êtes seul avec lui. Pas de téléphone, évidemment, pour vous. Pas d'email, pas d'urgence. Voilà. C'est un temps off pour tout le reste de mon existence pendant une demi-heure, une heure, une demi-journée, un week-end, vous déterminez. Je ne suis qu'avec toi. Tu es le seul qui existe pour moi. Là, déjà, on peut commencer à échanger, à discuter, peut-être plus facilement. Et puis, l'autre truc, c'est le temps d'échange en famille. Ça, c'est un temps de régulation familiale. Alors pareil, ça vient de Eileen Snell, je vais vous montrer tout de suite. Jane Nelson, pardon. La discipline positive. Ça, c'est super. Et ce qu'elle propose, c'est pareil, de prendre un rendez-vous, mais cette fois-ci, c'est pas en tête-à-tête avec un enfant, c'est toute la famille au complet. Et puis, pendant ce temps-là, alors pareil, on détermine à l'avance quel jour, quelle heure, combien de temps. Okay ? Et le premier moment, il y a trois temps dans ce temps d'échange en famille. Le premier temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se dit un truc sympa. Chacun va dire un truc sympa à chacun. Un truc qu'on a remarqué de positif. Ben c'est dur, hein ? Ouais. Hyper dur. Alors, on a des trucs, hein, on peut se faire des listes. Je vais vous donner des trucs. Il y a des tas de listes de trucs à penser si on trouve pas. Parce qu'en fait, au début, on ne sait pas, on n'y arrive pas. C'est hyper difficile, c'est vrai, ça peut être difficile. Mais petit à petit, ça vient. Et donc l'idée, c'est le premier temps de cette régulation familiale, c'est on se dit un truc sympa, un truc qu'on a identifié. Ben là, j'ai vu que tu avais mis ton assiette dans le lave-vaisselle. Oh, super, vraiment, ça va bien fonctionner. Ben ouais, j'ai pas dit qu'il fallait que ce soit héroïque, hein. Ouais. Mon chéri, tu m'as fait mon café ce matin, c'est super, ça m'a beaucoup touchée. Oui. Alors c'est pas forcément dans la journée, parce que ce temps d'échange, il peut pas être fait tous les jours, mais il peut être fait toutes les semaines, ou tu vois, toutes les deux semaines. Bon là quand même, on a le temps. En général, il se passe des trucs bien quand même. Même avec tes frères et sœurs, même avec tes parents, si on cherche bien, on ne peut pas le trouver. Oui.
Et si tu le dis sans penser, ça compte ou pas?
Ah, j'avais pas pensé à ça. Si tu le dis sans le penser. Alors, moi je pense qu'il vaut mieux, tu vois, il vaut mieux dire une toute petite chose, même qui a l'air insignifiante, plutôt que de dire un truc que tu penses pas vraiment, tu vois. Parce qu'en fait, quand on dit des trucs qui sont pas vraiment pensés, ça se sent. Ouais. En revanche, si t'es très très en colère contre ton frère qui t'embête, et que vraiment t'es pas d'humeur à dire un truc sympa, ben t'as le droit. T'as le droit de passer ton tour. Mais après, on en parle, du coup. Tu vois, parce que les parents vont dire, bah, donc t'arrivais pas à dire quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Tu vois? Ouais. Donc c'est ça, c'est super, tu me permets de faire la transition vers le deuxième moment de ce temps d'échange en famille, qui va être un temps de discussion. Alors, dans l'idéal, je sais que c'est pas facile, mais dans l'idéal, on peut avoir laissé à disposition un cahier, un bloc-notes dans la cuisine, dans la pièce où on se réunit, et où chacun, au fil de la semaine ou au fil de la journée, a pu écrire des questions, des points, des trucs d'organisation, des tracasseries, ce qu'il veut voir discuter en famille. Et au moment du temps d'échange en famille, on va récupérer cette liste, et puis on va avoir l'ordre du jour, comme dans vos entreprises, hein. C'est pareil. Et puis, on va suivre l'ordre du jour. Et là, on va faire passer la parole. Chacun va pouvoir s'exprimer. Ça demande que les parents aient d'abord fait les trucs de régulation émotionnelle, hein, aussi, parfois, pour que ça se passe bien. Et puis, on clôture sur le rendez-vous prochain. Quand est-ce que... Donc tout a été évoqué, ou pas, parfois on n'a pas le temps de tout évoquer, donc cette question est remise à l'ordre du jour de la semaine prochaine, et puis on prend rendez-vous, et puis voilà.
Le rendez-vous, c'est le troisième temps ?
Ouais, c'est la prise de rendez-vous pour la prochaine fois. Pardon ? Absolument, ouais. C'est sympa d'enquiller sur un truc un peu ludique ou soirée, je sais pas moi, voilà, soirée jeu, soirée crêpe.
À la base, pour les tests, là, il y a un jeu de rôle au départ. Enfin, il y a des rôles déterminés, le secrétaire, celui qui
tient. Ouais, alors moi je simplifie.
C'est sympa parce que c'est.
Oui, ok, ouais, c'est vrai. Après, moi je pars de l'idée que chaque famille va se le créer aussi et s'approprier. Mais en tout cas, sur cette base-là, on peut imaginer plein de trucs. Et en général, ça fonctionne plutôt pas mal. Moi, je l'ai refait la semaine dernière. Et au début, voilà, un grand qui dit « Ah, le truc de psy, hein, ça va, quoi. » Et puis, en fait, je l'ai vu arriver, ça sort. « Ah oui, bon, alors on va parler de ça, bon, d'accord. » Donc, ça le fait quand même avec les amis.
Est-ce que le repas n'est pas déjà un rendez-vous?
Ça dépend des familles. Oui, ça peut, bien sûr, ça peut tout à fait être ce temps-là qui est propice à l'échange, mais vraiment ça dépend des familles, parce que selon les activités des uns des autres, les emplois des uns des autres, chacun ayant des rythmes parfois très différents, c'est souvent la difficulté, hein, c'est que du coup on n'arrive plus à avoir ce temps de parole ou de discussion, souvent, bon, si c'est pas votre cas, tant mieux. Mais voilà, ça peut être instauré de manière un petit peu régulière. Mais le temps de repas peut tout à fait être ce temps-là, oui, bien sûr. Et oui, parfois c'est un moment pas agréable. Voilà. J'aime pas ce que t'as fait, c'est pas bon. Je suis pressée d'aller discuter avec mes copains sur telle application. J'ai pas fini mes devoirs. Ouais, c'est pas toujours un moment agréable. Il y en a pour qui le moment de manger aussi, l'action de manger n'est pas agréable aussi, parfois. Donc, ça dépend.
Ouais. Faut mettre. Ouais. Quand on essaye beaucoup de communiquer avec nos ados, mais quand on est face à un ado qui est en permanence dans la transgression, c'est difficile d'être bienveillante. Ouais. Ouais.
Bah là arrive la notion du cadre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va chercher comme limite. Qui pose le cadre, comment est-il posé? Est-ce que moi je peux m'appuyer sur d'autres compétences aussi, d'autres adultes peut-être? Ça dépend. Madame demande comment faire avec un adolescent qui est toujours dans la transgression. Et que c'est difficile d'être bienveillant dans le cas où l'adolescent est toujours dans la transgression. Là, il va chercher quelque chose de la limite. Donc. La bienveillance, ça ne veut pas dire laisser faire n'importe quoi.
Non.
Je peut-être que je ne l'avais pas dit. Donc, effectivement, c'est pas simple. Moi, j'irai chercher du côté du père, mais ça, c'est ma formation de psychanalyste, symboliquement, va être le porteur de la loi, le représentant de la loi. Alors, est-ce que le père est là? Est-ce qu'il est dans cette posture-là? Est-ce que le fils va le chercher justement pour avoir ce temps particulier avec son père? Autant souvent les mamans ont plus de facilité que les papas à créer ce temps particulier avec l'enfant, et en fait les pères ont vraiment faut qu'ils s'y mettent, quoi, parce que il va pas se passer du tout les mêmes choses. Donc moi j'irai chercher du paternel. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Ma question, c'est sur nous, en tant qu'adultes ou en tant que parents, on regarde l'enfant, est-ce qu'on doit le voir en tant qu'un ado, un adulte en devenir, ou un adulte en miniature?
Un adulte en devenir.
Ouais.
Pas un adulte en miniature. Même s'il a une carcasse impressionnante. J'ai pas parlé du processus d'individuation, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'enfant, au départ, il va s'individualiser, c'est-à-dire qu'il va prendre conscience qu'il est un être à part, qu'il n'est pas collé à maman, il n'est plus collé à maman, au départ. Donc il s'individualise. Et puis, à l'adolescence, il va s'individuer, c'est-à-dire qu'il ne va plus se construire en relation à l'autre, comme un individu séparé de l'autre, mais c'est par rapport à soi. Il va construire son identité psychique, et ce processus-là peut prendre du temps, mais en effet, c'est un processus. Donc, ce qui se passe à l'adolescence ne présume pas ce qu'il sera, l'adulte qu'il sera, y compris s'il transgresse. Ou si, il va avoir des attitudes... correspondent pas à nos valeurs ou à ce qu'on aimerait nous transmettre, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas intégré. Ça veut dire que là, en ce moment, il ne peut pas le montrer, il ne peut pas le vivre. C'est tout.
Est-ce qu'une punition peut être positive?
Alors, oui et non. Et ouais. Alors les puristes, donc j'ai des bouquins de Filiosa là. Alors elle est totalement anti-punition, elle dit que c'est totalement contre-productif. Alors moi, plutôt que de punition, je parlerais de encore une fois de régulation. Mais moi je reprends les téléphones régulièrement. Alors c'est vécu comme des punitions absolument terribles. J'ai pas la solution. Voilà. Moi, je pense que je suis un peu contre les excès, les extrêmes, y compris dans la bienveillance. Je pense qu'il y a un moment où ben, on fait aussi avec les outils qu'on a. Voilà.
C'est une punition si on a prévenu à l'avance. Ce qui va se passer, c'est qu'on digresse. Et qu'on met en application.
Ah, si jamais ça se passe comme ça, alors tu n'auras pas ça. C'est ça ? Ah, rupture de contrat. Okay. Ah, il y a un ado qui a des trucs à nous dire. Alors vas-y, qu'est-ce que tu en penses, toi ?
C'est une menace.
Ah ouais. Ah ben ouais, c'est une menace. Voilà, vous entendez ? C'est vécu comme une menace. Mais c'est important ce que tu dis. Merci. C'est vrai ? Enfin, c'est vrai. C'est vrai que c'est vécu comme une menace. Même si de l'adulte, c'était pas posé comme tel, l'ado, c'est sûr qu'il va prendre ça comme une menace. Sûr. Donc c'est là où se joue votre comment dire, capacité d'échange, de discussion, de, voilà.
Et la sortie du cadre, il faut le noter.
La sortie du cadre, oui. Le noter, c'est-à-dire.
S'il y a eu un cadre annoncé,
bien sûr,
et que l'adolescent en est sorti,
sort du cadre, il faut le signifier, absolument. Il faut le signaler, ne surtout pas faire comme s'il ne s'était rien passé, parce que bien évidemment, quand l'ado sort du cadre, c'est qu'il vient vous chercher. Hein. Il vient chercher, il vient. Alors, il expérimente, il teste, etc. Mais il vient chercher quand, le cadre. Donc, évidemment, ne jamais faire comme si on n'avait pas vu.
Il y a des bornes. Hein.
Pardon ?
Il y a des bornes,
bien sûr, il y a des règles, et puis nous aussi on respecte des règles. Hein. On respecte un code de la route, un code des lois, on respecte tout un tas de contraintes, donc ça fait partie des apprentissages. Et là, faut pas tergiverser, hein. Faut absolument le signifier. Oui ?
Oui, bonsoir. Pardon. Quelle posture, réaction adopter face à un enfant qui sait tout, finalement ? Je sais mieux que toi, où je vais, je sais mieux que toi. Je dois faire.
Je sais mieux que toi. Ça, c'est dans le cas où peut-être un adulte veut l'amener à un endroit où il ne veut pas aller. Ou amener à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et il vous répond, mais laisse-moi expérimenter par moi-même. Et si je me fais mal, ben voilà. Laisser faire, ça ne veut pas dire lâcher prise. Ça veut dire être là en... Vous savez, le phare, là. Je suis toujours là. Voilà, pas loin. Je suis pas loin. Vous savez, les petits qui apprennent à marcher, ils tombent, hein. C'est bête comme chou, mais ils tombent, hein. Ils tombent tout le temps. Alors, ou vous les mettez dans des youpala pour surtout pas qu'ils tombent, avec des casques en mousse, des coins sur la table, des sécurisations sur tous les placards, etc. Ou vous changez pas votre salon, parce que c'est votre salon, et puis ben, vous gardez toujours un œil dessus, quoi. Et puis voilà. Et à un moment donné, s'il se cogne, il est tombé. Je suis contre l'hypersécurisation des intérieurs. Parce que ça remplace jamais le regard du parent. C'est trop facile de dire, bah, je mets le casque, les coins, les machins, les trucs. Maintenant, il se fait toujours mal. Ah ben oui, évidemment.
Excusez-moi, par rapport, par exemple, au portable, la personne disait, si on lui enlève, c'est une punition, mais c'est comme si ce portable, c'était un dû. Si on part du principe que c'est pas un dû mais une récompense pour une bonne attitude, si on lui enlève, c'est plus considéré comme une punition. Est-ce que c'est pas notre discours qui est justement fait biaisé par rapport à ça ?
Ben ça dépend de ce que vous avez posé comme règle chez vous. Alors le portable, c'est plus qu'un dû, c'est un
portable ou autre chose. Enfin, ça peut être une activité en plus qu'on offre ou des choses comme ça qui sont des récompenses à une attitude. À...
Ok.
Non, je sais pas.
Je réfléchis. Je réfléchis. Le système punition-récompense, en fait.
On voit toujours qu'on n'en parle que de punition. Derrière moi, on ne voit pas aussi le fait que bah, c'est une récompense, qu'on leur, enfin, on leur envoie rien, ces jeunes aussi, enfin, nos enfants. Je veux dire, voilà, nous aussi, on fait des efforts pour leur donner
bien sûr.
Ce confort qu'ils ont, ces petits plaisirs. C'est un deal qu'on doit avoir avec eux. Mm-hmm. Du coup, ils ont aussi des devoirs vis-à-vis de nous.
Si ouais,
nous,
bien sûr.
On a envie de leur faire plaisir, c'est aussi à eux de nous faire plaisir.
Ok. Alors, eux, ils sont pas là pour nous faire plaisir. Hein. On fait pas des enfants pour qu'ils nous fassent plaisir.
Alors,
Alors, qui nous respecte, oui, bien sûr.
Entente, correction, bonne relation les uns avec les autres. Oui,
ok. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, moi je suis blessée. Tu vois, là, il s'est passé un truc. Je t'avais dit que. Alors, je sais pas, j'invente, hein. Qu'on irait au cinéma voir ton film, là. Mais alors, donc, il y a un si. C'est la sortie d'un si, c'est ça?
Parce que c'est juste le fait de dire ça n'est pas un dû que l'on a vis-à-vis de ses enfants, de nos enfants.
Oui.
En fait.
Oui.
Donc c'est pas une punition si je te la retire, c'est quelque chose que finalement tu n'as pas mérité. Non, parce que je lui dois pas. C'est une récompense que je lui donne parce que.
Il oui, c'est la carotte.
On peut considérer, je sais pas justement, oui, est-ce que,
oui, non, mais
parce que si c'est une carotte, c'est une forme de chantage aussi.
Mais la récompense aussi, c'est-à-dire où vous vous posez qu'on va faire ce temps particulier, on va aller au cinéma tous les deux, parce que moi aussi ça me fait plaisir, parce qu'on s'est pas beaucoup vu ces derniers temps, et que je sens que t'es en train de décrocher au collège, et que, hein. Mais même s'il continue à décrocher au collège, ou même s'il continue à transgresser, on avait dit qu'on allait au cinéma ce jour-là. Hein. Donc là, c'est vous qui changez la règle. Après, en revanche... bien évidemment que rien n'est dû, qu'il y a des choses qui peuvent être rediscutées, mais peut-être pas sous la forme de j'ai plus confiance en toi, ou tu m'as déçu, voyez, parce que là vous portez un jugement. Mais je suis blessée là, tu vois, parce que ça tombe mal, on avait prévu d'aller au cinéma, et là juste aujourd'hui tu te comportes comme ça, là pour moi il y a un souci. Donc on va aller au cinéma parce qu'on l'avait prévu, par contre on va discuter, et puis on va mettre en place quelque chose. Parce que ce qui s'est passé là, c'est pas tolérable. Donc, pas laisser en plan, mais pas forcément annuler ce que vous aviez prévu, parce que pour vous aussi, c'était un temps que vous aviez mis en place pour cet enfant-là. Ça va ? Ok. Je sais pas, excusez-moi, combien de temps avons-nous, madame ?
Encore 5 minutes ?
Encore 5 minutes ? Allez, madame.
Monsieur qui a levé le bras,
madame. Vous avez vu une main. Alors, madame.
Chaque adolescent est bien évidemment unique et a son vécu à lui. Mais est-ce qu'on a pu quand même déterminer quelle était l'angoisse récurrente d'un adolescent? Est-ce que c'est de devenir adulte?
Quelle est l'angoisse récurrente d'un adolescent? Alors, tous les adolescents ne sont pas angoissés?
Oui, hein, mais c'est une période particulière.
Ouais,
hein,
ouais.
On l'a vu, effectivement, ouais. Les carapaces, etc. etc.
Ouais.
Est-ce que ce côté particulier, effectivement, est lié à quelque une difficulté qui serait assez commune en fait par rapport aux adolescents ou pas du tout?
Ben si, c'est un peu tout ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire toute cette transformation hormonale, corporelle, non, mentale, etc. En quoi il fait peur?
Ouais.
Le monde ah oui, alors ben, y a plein de choses. Le monde d'aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il soit très sécurisant pour les enfants. Si jamais vous écoutez les infos tout le temps à la maison, regardez la télé, allez voir BFM News en boucle et tout, ça crée un climat d'anxiété aussi à la maison. Non.
Non, justement, ce que je veux dire, c'était difficile pour tout le monde à toutes les époques, même quand il n'y avait pas ça, c'est ça que je veux dire.
Alors après, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que les enfants que vous avez ne ressemblent en rien aux enfants que vous avez été. Vous, en tant que parent, vous ne ressemblez certainement pas aux parents que vous avez eus. Donc là, je ne sais pas trop comment vous répondre.
L'adolescence est une notion récente. Avant,
on rentrait dans le monde du travail à 14 ans. Il n'y avait pas de transition. On passait de l'enfance aux mines ou au boulot. Et puis, l'enfant ne parlait pas à table, ne répondait pas, ça filait droit. Hein, et puis, il y a des gens qui sont nostalgiques hein, de ce mode éducatif. Bon, c'était une autre époque, d'autres référentiels éducatifs. Mais en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'adolescence. Aujourd'hui, on a peut-être tendance les jeunes ont tendance à avoir plus de difficultés à s'impliquer dans la vie active. Et là, il y a une multitude de facteurs. Hein.
Pourquoi ? Parce qu'on se focalise probablement trop sur cette période-là aussi, en tant que parent.
Peut-être.
Peut-être.
Qu'on en parle beaucoup. Mais peut-être parce que aussi on veut bien faire et que.
C'était en général.
C'est ça, ouais, tout à fait.
C'est une pression à nous déjà.
On se met la pression, oui, bien sûr.
Beaucoup de problèmes avec l'adolescence, c'est nous qui les avons créés. À être à leur service, au service du gamin, à le transporter pour faire ceci, et tu vas faire ton sport, et tu vas faire tout truc. Il n'y a jamais le temps de s'ennuyer. Ça nous sécurise parce qu'on sait où il n'est pas dans la rue, il ne va pas se faire faucher par une voiture, ou par un adolescent à mobylette, ou à scooter. Et ainsi de suite, les gamins, on est à leur service. Alors, quelque part aussi, il y a une ambivalence, parce que moi, j'essaie de la lâcher le plus possible. Et quand je vois d'autres enfants, mais les parents, on va la porter au collège alors qu'on habite à 500 mètres, parce qu'il y a une route à traverser. Les gamins, ils
c'est les mêmes qui ont mis des coins aux tables et qui ont mis des casques en mousse aux petits, quoi.
Et nous aussi, oui. Mais de tout petit aussi. Mmh. Alors, on va faire à 5 ans, ils font de la guitare, de la danse, du cheval, du matin. Mais laissez s'emmerder un peu dans un coin de la maison, c'est là où on
fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On est dans une société de l'hyperactivité, mais comme vous, hein, comme moi, comme on est tous des hyperactifs chroniques, quand même, mais pour beaucoup. Il faut être performant. Il faut être compétiteur, il faut tout réussir, il faut avoir une grosse voiture, il faut. Mais ça, c'est le marketing commercial aussi. Hein. C'est plus vous consommez, plus vous consommez. Donc ça, c'est formidable pour les vendeurs. C'est pas dit que ça rende nos enfants plus heureux. Ça, c'est vrai. Ni, absolument.
Comment apprendre aux enfants que la consommation n'est pas forcément la voie à suivre? Je veux ressembler à des Nike, je veux parce que le petit copain. Hein, comment lui dire que...
Bah là, c'est vos valeurs. C'est vos valeurs, vos règles. Voilà, là oui, là non. Non, vous n'avez pas l'air convaincu.
Mais non, parce qu'il y a...
Oui, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile.
C'est difficile. Si tous dans la classe, ils ont, par exemple, je ne sais pas, tel type de chaussures ou tel type de veste, je veux la même.
Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça.
Et, par exemple, non, parce qu'on peut dire ce n'est pas une valeur. Il y en a d'autres.
Eh bien, parlez-en.
Avec oui, mais ça, je suis d'accord. Ouais. Comment le faire comprendre hein?
Ben c'est pas sûr qu'ils le comprennent.
Ben oui, mais c'est pour ça.
Et oui, mais on peut pas exactement les moduler comme on aimerait les moduler. Et oui, c'est des êtres à part. Hein. Et ouais.
C'est trouver les mots.
Ouais.
C'est pas les mots, je pense.
Non.
Depuis que l'enfant est né, la façon que nous-mêmes on a d'acheter des choses.
Exactement.
Nous, on achète tout le temps, on achète la télé.
Non, mais même. Oui, oui. Mais il y a un âge où ils vont devoir être comme les copains. Ils vont vouloir, en tout cas. Je ne dis pas qu'ils doivent. Vous dites qu'ils veulent.
Ils veulent.
Bah oui, c'est hyper rassurant.
Ouais.
Ouais, bah, ça passe par là. Et puis après, ça. Hein. Oui, alors, laissez passer, encore une fois, je ne sais pas quelles sont vos valeurs. Mais c'est, vous pouvez utiliser ça comme un support de discussion et d'échange. Voilà. Après, est-ce que vous cédez ou pas, ce n'est pas un rapport de force. Attention. C'est vous, où sont vos limites, jusqu'où vous êtes prête à dire oui, mais si c'est oui là, ça va être non là. Voilà. Et l'ado, il peut aussi comprendre qu'il y a des choix à faire, qu'on n'a pas un portefeuille illimité, que si j'achète un iPhone à... je sais pas combien, je vais pas en plus lui acheter des Nike, par exemple, ou inversement. Peut-être que, ben voilà, je peux céder sur un objet. Quel est parmi tout ce que tu veux, tu fais la liste de tout ce que tu veux, vraiment tout ce dont tu rêves. Je pourrais jamais t'acheter tout ça. Mais sur toutes ces listes, quel est vraiment l'objet qui est fondamental pour toi d'avoir? Alors, ok, on se met d'accord sur tel objet. Celui-là, il est trop cher, je peux pas. Mais celui-là, si vraiment je fais un gros effort, je peux peut-être te l'offrir. Mais en revanche, ça veut dire que l'effort, il est aussi bilatéral, quoi. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Oui, mademoiselle.
Non, c'était juste pour rebondir. Qu'est-ce que
l'adolescente doit faire comme effort en retour?
Bonne question. Qu'est-ce qu'il pourrait faire à minima? Ça, il y a plein de choses et c'est propre à chaque famille. Moi, j'ai un mot-clé, c'est à minima. Qu'est-ce que tu pourrais faire à minima pour qu'on se mette d'accord sur ce deal-là? Donc, il peut dire, eh ben, je vais vider le lave-vaisselle. Je suis très vaisselle en ce moment. Je vais vider le lave-vaisselle. Ou je vais aller chercher ma sœur à l'école. Je vous prends des exemples à moi. Hein. Ou, voilà. Mais c'est dit. Et puis on tape dans la main, quoi. On est d'accord. Mais c'est pas le parent qui dit, maintenant, tu vas faire ça parce que moi, je t'ai offert ça. Non, c'est, ok, je peux t'acheter ça. Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire pour participer à la vie familiale, montrer ton implication dans les activités ou au collège ou voilà, je sais pas.
Mais du coup, on n'est pas de nouveau dans la carotte parce
que... Non, parce que c'est lui qui c'est participe contrat, aussi. C'est le contrat. Moi, je suis prête à faire cet effort. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui, pour toi, est accessible? Parce que si je lui demande un truc qui est inaccessible pour lui, il va se mettre en échec. Et contrairement à ce qu'on pense, il va très très mal le vivre. Il va se dire qu'il est nul, qu'il n'y arrive pas, et là, c'est pas bon. Alors que si lui a dit, bah, ça je peux le faire, on va lui dire, ok, tu peux le faire, mais tu t'y engages. Et puis tu t'y engages jusqu'à, on se met d'accord sur une temporalité aussi, hein, pourquoi pas. Et là, c'est sa responsabilité. Il est acteur de sa vie, et il acquiert des compétences, et il acquiert de l'autonomie. Et il comprend que bah, l'argent, il tombe pas à flot dans le portefeuille des parents, quoi. Non, c'est pas que de l'argent. Mais... Ça va? Alors, je vous mets à dispo les livres dont je vous parlais. Il y a des tas de sites... Il y a des tas de sites internet aussi qui sont très bien faits, sur lesquels vous pouvez trouver alors, les fameuses phrases magiques, les phrases positives. Alors, vous tapez les phrases positives. Alors, vous avez la liste de 10, la liste de 50, la liste de 100. Vous pouvez faire votre marché. Je ne sais pas pourquoi il s'est
arrêté.
C'est l'heure.
Parce que la batterie est cachée.
Donc appuyez-vous sur vos ados parce qu'ils ont souvent les réponses et la solution elle doit être trouvée conjointement parce que si c'est nous qui apportons les solutions non. Enfin
merci
à vous.